Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, voici un dimanche que j'attendais depuis longtemps pour vous parler de la vie intérieure. Saint Paul, dans son épître, commence « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il n'y a pas le choix. Ou nous vivons selon l'Esprit, ou nous vivons selon la chair. Et si l'Église nous donne le passage évangélique où notre Seigneur dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres et qu'il faut choisir nécessairement, c'est bien pour nous faire comprendre que entre ces deux vies, ou la vie de l'esprit, ou la vie de la chair, il faut choisir, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'autre possibilité. Cela devrait être évident que le chrétien vit de la vie intérieure. Il vit de la vie de l'esprit. C'est très surprenant parce que lorsqu'on lit le commentaire de saint Thomas sur ce passage de l'Épître aux Galates, saint Thomas dit que l'homme vit selon l'esprit, c'est-à-dire selon l'intelligence et la raison. L'intelligence et la raison sont très décriées aujourd'hui, parce qu'on y voit quelque chose de, j'allais dire, qui manque d'efficacité. Notre monde moderne est un monde qui veut de l'efficacité. Et cela a déformé notre mentalité. L'efficacité nécessairement, parce que nous, vous voyez, nous ne voulons pas l'efficacité. Nous voulons adhérer à Dieu. Plus nous montons, plus nous adhérons à Dieu, plus nous adhérons à la vérité, plus nous contemplons. Et nous ne cherchons pas à faire, nous cherchons à être. Vivre pour nous, c'est être en Dieu. Le monde moderne, lui, veut de l'efficacité. Qu'est-ce à dire? Qu'il veut produire. Il est dans le mouvement, il est dans la production. Et malgré tout, les chrétiens, même traditionnalistes, sont tentés par cette mentalité moderne de l'efficacité aux dépens de la vie intérieure. Lorsque M. l'abbé Schmidberger dit que la reconnaissance des confessions de la fraternité par Rome ouvre de vastes champs d'apostolat, il est dans une mentalité moderne d'efficacité. Le monde moderne, en réalité, s'il cherche l'efficacité, nous noie dans la matière. La chair et la matière, c'est pareil. Il noie dans la matière, il noie dans ce qui est sensible. Et alors, ce n'est pas que la chair soit mauvaise, bien entendu, mais je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà pris cette comparaison, elle est un cheval. Alors le cheval est fait pour être guidé, et à la limite, le cavalier n'a pas besoin de cheval. Lorsque le cheval est mort, le cavalier continue à se battre. Alors qu'un cheval a toujours besoin d'un cavalier, sinon c'est un cheval sauvage, on n'a jamais vu un cheval sans cavalier faire la guerre. Alors, ce n'est pas que le corps soit mauvais, mais il est soumis. Il est soumis parce qu'il aide à la vie intérieure. C'est tout son intérêt et il n'en a pas d'autre. Le démon développe également toute cette préoccupation de la chair, notamment avec cette histoire des tempéraments qui a fait beaucoup de mal dans la tradition. Un prêtre, l'abbé Bruciani, a publié des conférences sur les tempéraments. Et il ne se rend pas compte, c'est très révolutionnaire ça, il ne se rend pas compte que les tempéraments, c'est une affaire médicale. Vous avez des gens qui ont le foie, la rate, les poumons, le cœur, le sang, que sais-je, hyperactifs, et ça va évidemment donner un certain caractère au cheval, à notre corps. Mais les tempéraments sont la matière des passions, et les passions sont dirigées par la vertu, et la vertu est dirigée par l'idéal. Alors, lorsqu'on analyse toute la vie humaine à travers les tempéraments, on fait de l'américanisme, ce sont des trucs qui permettent à des recruteurs américains de trouver des collaborateurs avec des moyens faciles. Jamais on ne pourra mettre ainsi les hommes, les fils de Dieu, dans des cases et dans quatre tempéraments, c'est pas possible. Mais cela fait fureur chez nous, parce que ça a une allure de spirituel. Mais ça n'en a pas, c'est l'inverse. Et du coup, il y a un certain déterminisme. Un enfant est sanguin, donc il est normal qu'il ait agi comme ça, il faut en tenir compte. Alors qu'en éducation, on dit un enfant est sanguin, peut-être, on s'en fiche, il a tel défaut, et donc la vertu va corriger les défauts et va orienter les choses. Si l'on avait éduqué Saint François de Sales avec les tempéraments, lui, le violent qu'il était, ne serait jamais devenu le doux Saint François de Sales. C'est une évidence. Les persécutions du monde moderne, les persécutions communistes, sont des persécutions psychologiques, dans lesquelles on casse la raison. C'est la praxis, on fait travailler avec les communistes et on pose des dilemmes simplistes, pour pas dire idiots dans leur simplicité, presque des trucs d'ordinateur. Alors, si vous êtes pour la patrie, vous devez collaborer avec nous et donc vous devez vous séparer du pape qui est à Rome parce que c'est un étranger et les étrangers ne sont pas pour la patrie. C'est des raisonnements de rien du tout, mais ça a eu beaucoup d'efficacité. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés avec ça. Alors les bons chrétiens résistent, parce que étant guidés par l'esprit, ils ne tombent pas là-dedans. Mais les gens qui ne sont pas vraiment chrétiens, même s'ils sont intelligents, mais qui ne sont pas vraiment chrétiens, qui n'ont pas vraiment d'idéal, qui ne vivent pas vraiment de l'esprit, se laissent facilement avoir avec ces raisonnements-là. Et ce raisonnement, si je vous en parle, c'est parce que ce sont ceux que le démon utilise avec l'Église, que l'Église utilise avec les traditionnalistes, qu'on utilise avec la Fraternité Saint-Pédis, etc. Alors, nous vivons de la vie intérieure. Et n'ayons pas de complexe, mes bien chers frères, à être des hommes de vie intérieure, comme si cela nous rendait moins présents au monde. En plus, ça n'est pas vrai. Il n'y a que les hommes de vie intérieure qui font vraiment quelque chose à l'extérieur, quelque chose qui en vaut la peine. Dans les fruits du Saint-Esprit dont parle Saint Paul, vous avez des fruits pour la perfection de l'homme en lui-même, et puis, comme la charité, la joie, la paix, la patience, mais vous avez des fruits pour l'extérieur, comme la bonté, la mansuétude, la bénignité, et puis la modestie, la continence, la chasteté. J'irai même plus loin. Ceux qui n'ont pas de vie intérieure ne peuvent que brasser du vent. Il n'y a que les contemplatifs qui puissent vraiment être actifs. Monseigneur Lefebvre était un grand contemplatif. C'est pourquoi il a été si actif. Et on peut en dire autant de Bastien Thiry, par exemple. On ne peut pas comprendre l'âme de grands actifs de cette manière-là, sans comprendre qu'ils sont des gens de vie intérieure. Qu'est-ce que la vie intérieure ? Elle est une vie en Dieu. N'ayons pas de complexe, je vous le disais, n'ayons pas de scrupules, nous vivons en Dieu, notre vie est en Dieu, notre vie est dans la foi, dans l'espérance, la charité. Qu'est-ce que l'activité de l'esprit ? Saint Thomas nous dit que marcher selon l'esprit, c'est être guidé par le Saint-Esprit. C'est notre raison qui nous guide et elle est guidée par le Saint-Esprit. Et marcher selon l'esprit, c'est faire des actes de vertu, contempler les choses divines et méditer la sagesse. Voilà ce qu'est un chrétien. Et dans le monde actuel, nous avons un témoignage particulier à rendre, non pas en allant dans le sens du monde pour espérer le redresser, ça c'est impossible, ça n'a jamais été possible, nous avons un témoignage à rendre que notre vie est en Dieu et montrer au monde qu'il fait fausse route. Il ne s'agit pas de contredire le monde par principe, là n'est pas le problème. Quand nous sommes opposés au monde, on veut nous faire croire que nous sommes opposés par principe. Non, c'est le monde qui est opposé à ce que nous faisons, et nous, nous vivons dans l'enthousiasme de Dieu, et le monde, qu'est-ce que vous voulez? Si nous voulons aller avec lui, nécessairement, nous allons avec lui, nous éloigner de la charité, de la foi et de l'espérance. S'il y a un témoignage à rendre au monde aujourd'hui, c'est qu'il a perdu la vie intérieure, la vie de l'esprit. Je vous disais dimanche dernier que les Vendéens estimaient qu'ils avaient à pardonner pour face à la haine des Bleus. S'ils luttaient avec les mêmes méthodes que les Bleus, à quoi cela servait-il? Effectivement, ce n'est pas une question de bleu contre blanc, c'est une question d'idéal contre idéal. C'est pas une question, ce ne sont pas des guerres, tel pays contre tel autre pays. C'est un idéal contre un autre idéal. Et même si notre idéal paraît défait, et aujourd'hui il paraît défait, mais je dis bien il paraît, nous savons très bien, nous, que d'abord Dieu ne meurt pas, que notre Seigneur a vaincu le monde par sa croix, et que la vie intérieure est une vie réelle et riche. Les fruits de la vie intérieure, c'est tout d'abord la charité, c'est-à-dire l'union à Dieu. Charité, ce qui nous est cher, voyez, charité bien de chair, carus. Dieu nous est cher. Nous vivons dans l'intimité de Dieu. Relisez les récits du Père Alagiani, par exemple, Rose U et tous les autres. Vous verrez ce qu'est de vivre dans une véritable union à Dieu, même au milieu des pires conditions. Et cette charité nous donne la joie et la paix. Pourquoi la joie? Parce que l'homme est fait pour cela, l'homme est fait pour Dieu, l'homme est fait pour connaître Dieu, pour le contempler, pour l'aimer, pour vivre avec lui. Pourquoi les gens, même les païens autrefois, croyaient-ils à l'immortalité de l'âme? Parce que c'est naturel. L'homme n'est pas fait pour disparaître, il est fait pour vivre. Et les philosophes n'ont pas de mal à prouver l'immortalité de l'homme, à partir des désirs de l'homme et surtout de la vie de l'esprit, l'esprit ne peut pas mourir. Il faut arriver au temps moderne pour prétendre qu'il n'y a rien après la mort et pour mépriser à ce point même les souvenirs des morts et le corps de ceux qui nous ont quittés. Alors, nous vivons, nous, dans la joie, en étant avec Dieu, parce que l'homme est fait pour cela. Saint Augustin dit « Notre cœur est inquiet tant qu'il n'est pas en toi, Seigneur, car il est fait pour toi. » Et cette joie ne peut être connue que par ceux qui vivent en Dieu, les autres l'ignorent, et c'est pourquoi les autres ont tant de mal à comprendre quelle est notre vie, parce qu'ils ignorent, alors ils n'arrivent pas à deviner les choses. Mais probablement c'est par les fruits qu'ils verront qu'il y a quelque chose en nous. Parce que le fruit est d'une part un achèvement, mais surtout il est doux, agréable à goûter, il est sucré. Et alors la joie qui rayonne a quelque chose de sucré, si je puis dire. De même la paix. Pourquoi la paix suit-elle immédiatement la joie? Parce que rien ne nous trouble. On voit dans les persécutions que la paix, rien ne peut ôter la paix de ceux qui sont persécutés. Et c'est justement cette paix qui entraîne de nouvelles conversions. Je lisais récemment des récits des martyrs du Vietnam. Les périodes de plus grande progression de la chrétienté au Vietnam étaient les périodes de plus grande persécution. Plus, et ça a été des centaines de milliers. Lorsque c'était les persécutions, le roi donnait à tous les fonctionnaires la liberté de se débarrasser des chrétiens. C'était encore, j'allais dire, plus simple qu'à Rome. À Rome, on faisait des procès. Là, même pas. On mettait le feu, on tuait, on découpait, etc. C'était des centaines de milliers. La chrétienté du Vietnam a donné énormément de martyrs à l'Église et à Jésus-Christ. Eh bien, plus il y avait de persécutions, plus il y avait de chrétiens. Et on arrive à ce paradoxe qu'il y avait au Vietnam presque autant de prêtres par nombre d'habitants qu'en France, qu'en Europe. Qu'en Europe. Maintenant, hélas, tout cela est bien fini d'un côté comme de l'autre. Donc, je vous disais, la paix. Dans la crise actuelle, il n'y a que la vie intérieure qui nous donnera la paix. Il n'y a que l'union à Jésus-Christ qui nous donnera la paix. Il n'y a que l'union à la Très Sainte Vierge qui nous donnera la paix. Sinon, ça sera l'inquiétude. Et si c'est l'inquiétude, alors du coup, l'homme s'affole. Et s'il s'affole, il fait n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe actuellement avec les libéraux. C'est ce qui se passe avec les tant de traditionnalistes, enfin disons, de la fraternité Saint-Pédis et tant d'autres, qui s'affolent. Alors ils ont peur, on a peur de l'islam, on a peur du monde, on a peur de la déchristianisation, et puis on ne sait plus quoi faire. Alors on va dans tous les sens, et on fait des traités d'amitié, là où il ne faudrait pas faire des traités de guerre, mais là où il faudrait faire l'amitié avec Dieu. Et comment pense-t-on au prochain dans ce cas-là? Parce que je vous ai dit, la vie intérieure peut paraître oisive et inutile parce qu'elle est une vie en Dieu. Mais elle rayonne. Et Saint Paul, dans le passage juste avant celui que nous avons aujourd'hui à la messe, vous êtes appelés à un état de liberté. Prenez garde seulement que cette liberté ne vous serve pas d'occasion pour vivre selon la chair. Mais assujettissez-vous les uns aux autres par une charité spirituelle. Car toute la loi est renfermée dans ce seul précepte, vous aimerez votre prochain comme vous-même. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Alors, cela paraît paradoxal parce que je vous ai dit que la vie intérieure est une vie d'union à Dieu. Alors, s'il s'agit du prochain, à ce moment-là, on se tourne vers l'extérieur. Eh bien non. La vraie, la première, l'essentielle charité envers le prochain, c'est de le faire vivre dans la vie d'union à Dieu. La vie intérieure rayonne, elle se communique. Elle ne peut que se communiquer que si elle est vive. Elle se communique et c'est cela la vraie charité. À partir de là, effectivement, si tous vivent dans la vie intérieure, alors, eh bien, la soumission les uns aux autres devient très facile parce que les choses d'ici-bas nous préoccupent beaucoup moins. Alors si quelqu'un s'en charge, comme dans un monastère, si le père abbé se charge de décharger les moines et de leur fa faciliter la vie intérieure en prenant leurs soucis, eh bien, profitons-en, disent les moines. Je voulais vous parler également, j'aurais peut-être dû le faire un peu auparavant, les moyens que le monde met en œuvre, ce sont toutes les images. Méfions-nous des images. Ayons une certaine ascèse. L'Église nous a toujours recommandé la pauvreté. Il ne s'agit pas seulement de la pauvreté par rapport aux biens matériels. Il s'agit de la pauvreté, comment dirais-je, d'une ascèse. C'est-à-dire savoir nous séparer de tout ce qui flatte les sens. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société qui flatte les sens. Et notamment parce que les yeux sont la fenêtre de l'âme, c'est par les yeux que tout entre. Et donc, Monseigneur Lefebvre nous recommandait par exemple de vivre à la campagne pour ne pas être agressé par les affiches, les images. Saint Jean Chrysostome, déjà à son époque, recommandait de ne pas traverser le centre des villes pour ne pas avoir des spectacles qui frappent les yeux. Nous avons maintenant ces spectacles à la télévision et avec Internet et tout le reste. Alors, sachons nous retirer dans notre thébaïde intérieure, dans notre vie intérieure. Sachons, faisons en sorte que notre esprit soit guidé par le Saint-Esprit et demandons-le à la Sainte Vierge, parce que c'est la Sainte Vierge qui nous donne l'Esprit. C'est par la Sainte Vierge que notre esprit sera guidé par le Saint-Esprit. Vous avez la consécration à la très Sainte Vierge qui est très importante pour cela. C'est par la consécration à la Sainte Vierge que nous prendrons la mentalité de la Sainte Vierge, la mentalité de Dieu. Que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit que nous devons donner à la Sainte Vierge nos intentions, pas seulement nos actions, mais nos intentions. Et lui, donner nos intentions, c'est faire en sorte que ce soit elle qui dirige notre vie. Alors voilà un très beau programme, mes bien chers frères. Et que vous soyez nombreux ou pas, peu importe. Le bon Dieu a permis cette crise terrible pour que les petites bougies que nous sommes luisent dans les ténèbres. Et tout le monde au milieu des ténèbres dira « Ah, cette petite bougie, c'est Dieu qui l'a allumée. » Alors ils verront la bougie et puis ils iront à Dieu. Ils ne s'arrêteront évidemment pas à la bougie, ils iront jusqu'à Dieu. Voilà quel est ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Bon courage, je vous assure de mes prières. Une petite nouvelle avant de terminer. Dimanche prochain, je donnerai un baptême d'adulte à un jeune de 12 ans, toute une famille qui est en train de se convertir. Alors, je le recommande à vos prières, lui et puis toute sa famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.